leur chant. Orchant, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchant ce soir en compagnie de Frédéric Pajac. Qu'est-ce qu'il y a de si charbonneux chez vous, Frédéric Pajac ?
Mes dessins.
Pas seulement.
Si, je crois qu'il n'y a que mes dessins, mais c'est... ça devrait être des peintures en fait, mais c'est des dessins parce que c'est la seule manière de faire des livres, parce qu'on ne peut pas faire des livres avec la peinture, mais j'aurais préféré faire des peintures, mais... Mais finalement, faire des livres, c'est de préférence pour moi faire un livre avec du noir et du blanc, mais aussi du gris. Et puis, ça a quelque chose de charbonneux, le noir.
Qu'est-ce que le noir ?
Le noir, c'est...
Êtes habillé tout en noir, d'ailleurs.
Presque. Mais le noir, c'est... On dit que c'est une couleur... c'est une drôle d'idée de dire que c'est une couleur, mais... En fait, le noir, c'est vraiment le contraire de la lumière, quoi. C'est, dans le dessin, c'est, un dessin, c'est de la lumière. Et le noir, c'est vraiment la manière d'aborder la lumière. On peut pas exprimer la lumière sans le noir, en fait.
Comment dessinez-vous?
Alors, je dessine à la plume et au pinceau, à l'encre de Chine, des formats assez petits, c'est-à-dire à peu près dans le format des dessins tels qu'ils sont reproduits. Et puis,
je dessine... Sur quel type de papier ?
Alors, je dessine sur du papier ingre, au dos d'un papier ingre, pour pas avoir trop de matière dessus.
Vous êtes un artiste ou un artisan ?
Enfin, je sais pas, j'aime pas tellement me définir. Et j'aime pas tellement, aujourd'hui, cette façon un peu qu'on apprend dans les écoles d'art à dire je suis un artiste, voilà mon travail. Moi, je sais pas si c'est du travail et je sais pas si c'est pas à moi de me qualifier, en fait.
Mais c'est ce que vous faites depuis très longtemps. Vous êtes quelqu'un qui avait inventé une nouvelle forme de littérature, une nouvelle forme, maintenant on appelle ça le roman graphique, mais vous en faisiez avant qu'on puisse le dénommer ainsi. Vous avez inventé un continent littéraire qui est fait de beaucoup de fantômes, de revenants, de gens aussi vivants. Et vous nous permettez, grâce à votre double art, celui d'écrire et celui de dessiner, de nous emmener dans des endroits, dans des terra incognita. Est-ce que votre propre biographie, parce que vous avez écrit aussi des choses très différentes, des récits, des romans graphiques, vous avez fait un film, etc., etc. Est-ce que tout n'est pas né de la douleur initiale, de la perte de votre père?
Alors, il y a plusieurs questions de votre question. Je vais d'abord commencer tout de suite par parler de ce que je fais, c'est-à-dire, c'est pas des romans graphiques. Un roman graphique, au sens strict, c'est une narration dessinée. Il n'y a pas de texte. Ça s'oppose à la bande dessinée. Mais en fait, en même temps, ça ressemble à la bande dessinée. Moi, je fais pas un roman graphique. Je fais ni de la bande dessinée, ni un roman graphique. Je fais vraiment autre chose, quoi. C'est-à-dire, je pense que dans ces deux langages que sont le dessin et le texte, dans ces deux langages, j'utilise plusieurs formes. C'est-à-dire que, si vous voulez, un livre, pour moi, il est, quand j'écris, je peux écrire de diverses manières. Par exemple, il y a évidemment toujours une partie biographique, Et la partie biographique, elle est, je dirais, assez classique, quoi, sauf qu'elle est, elle se veut, et elle doit être narrative. Et puis, il y a d'autres formes d'écriture. Il y a les formes, des modes de confession, il y a des modes de poétique, il y a des modes strictement narratifs, il y a des dialogues, il y a plusieurs formes dans la forme écrite. Et dans la forme dessinée, il y a aussi plusieurs formes, puisqu'il y a des dessins qui sont faits d'après des documents, des photographies connues ou inconnues, et qui sont plus ou moins fidèles à cette photographie. J'espère être le plus infidèle possible au document initial. Et puis, il y a des dessins qui sont imaginés, et il y a d'autres dessins aussi, et beaucoup, qui sont faits... sur le motif, dans la nature. Beaucoup, je dessine beaucoup dans la nature, dans la forêt, dans les Alpes, en haute montagne, et au bord de la mer. Et donc, contrairement, effectivement, et au roman, j'exclus James Joyce, mais qui utilise beaucoup de formes dans Ulysse, mais contrairement au roman traditionnel, y compris contemporain, il y a en général une forme. Il y a une forme narrative avec quelques personnages, un décor, etc., ou plusieurs décors. Mais il y a une forme d'écriture. Il n'y a pas une forme. La forme, s'il y a une forme poétique, elle est inclue dans l'écriture. Tandis que pour moi, elle est distincte. Il y a des parties distinctes de mon livre. Si je fais. Par exemple, je n'ai pas besoin de faire de description. Les descriptions, elles sont finalement dans le dessin, même si le dessin n'illustre jamais. Ou presque jamais, le texte.
En tout cas, quand on ouvre chacun de vos livres, Frédéric Pajac, on est avec vous. On vous suit pas à pas. On est imprégné par le paysage que vous nous faites découvrir, que vous découvrez vous, mais que vous nous invitez immédiatement à découvrir. Et ensuite, on rentre dans votre tête. Et on rentre dans la tête des personnages que vous avez choisis, qui appartiennent souvent à l'histoire, de la philosophie, de la littérature, des arts plastiques. Alors donc, ça vient bien d'une espèce de grande sensibilité. Est-ce que cette impression des sensations, est-ce que c'est ce côté poreux que vous voulez exprimer à la fois dans votre écriture et dans votre art de dessiner?
J'aimerais revenir sur la première question, la question de la douleur. La mort de mon père quand j'ai 9 ans, et votre question c'est est-ce que tout ne provient pas de, enfin tout ce que j'exprime ne provient pas de cette douleur. Je dirais en fait non. Je dirais que mon père m'a plutôt transmis quelque chose, l'envie de créer et de m'exprimer. C'est-à-dire que comme il était peintre, son père était peintre, et en fait moi j'étais souvent dans son atelier, enfin mes frères et sœurs, et nous étions souvent dans son atelier, presque vraiment beaucoup, on travaillait avec lui, c'est-à-dire qu'on travaillait, il nous donnait du papier, de la toile, de la peinture pour faire des dessins, souvent avec lui d'ailleurs. On a fait des choses à quatre mains ou à plusieurs mains. Donc cette envie de voir les choses en peinture, elle vient de lui, quoi. Elle vient pas de sa mort, elle vient de sa vie.
Oui, mais dans vos livres, vous en parlez souvent de la mort de votre père. Vous la figurez d'ailleurs. Elle vous hante manifestement.
Non, je dirais pas qu'elle me hante. Je dirais que après la mort de mon père, j'ai toujours entretenu plus ou moins inconsciemment un dialogue avec lui, c'est-à-dire au sens strict j'ai entendu sa voix, quoi. J'ai fait un livre qui s'appelle J'entends des voix et qui parle de ça, qui parle de la voix des morts, mais j'ai vraiment entendu mon père, je l'entends encore parfois, ça peut être aussi dans des rêves, mais sa présence est continuelle en fait, et elle était même il était très présent pendant je dirais une dizaine d'années, quoi. Et donc il me hante, je sais pas, mais ce que j'avais envie de dire la première fois que j'en ai parlé, c'est dans L'immense solitude, et en fait je ne fais qu'évoquer ça.
Ça commence L'immense solitude, hein.
Oui, ça commence avec l'accident de voiture dont il est victime, et j'avais envie de dire ça parce qu'en fait, moi, je suis pas allé sur sa tombe, j'ai pas fait ce qu'on appelle le deuil, pour des raisons trop compliquées à expliquer ici. Mais J'ai jamais vraiment pu m'exprimer sur... Je fais aussi partie d'une génération, je suis né dans l'après-guerre, 10 ans après la fin de la guerre, et je fais partie d'une génération où un garçon ou un homme ne parlait pas trop de sa douleur, quoi. C'était quelque chose de... Je vois par rapport à mes amis de mon âge et surtout et aussi des amis dessinateurs, même plus âgés que moi, des gens que j'ai bien connus, on parlait pas de sa douleur, ça ne se faisait pas, quoi. Et il faut dire qu'il y avait aussi dans le domaine du dessin, voilà, inspiré d'Harakiri, de toute cette mouvance qui va jusqu'à, Topor, GB, tous ces dessinateurs. Il fallait mettre une distance en fait entre soi-même et puis ce qu'on exprimait. Tandis que moi, j'ai pensé que je pouvais pas parler du fait que Henich et Pavès, dont je parle dans L'immense solitude, étaient orphelins de père, sans évoquer ma propre vie, en fait, ma propre douleur. Même si je ne me suis pas attardé là-dessus, ce n'est pas un livre sur mon père, je n'ai pas fait de livre sur mon père. Et ce livre, peut-être je le ferai un jour, parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur le deuil. Il y a des choses il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais il y a des choses qui, pour moi, n'ont pas été dites.
L'écriture et le dessin ne sont-ils pas une conversation avec les morts? Parce que quand on lit vos bouquins, et quand on les regarde, elle est omniprésente. Et vous parliez de l'au-delà. Vous aimez beaucoup les dessins de Victor Hugo, et on se dit aussi que lui, ses dessins, c'était une conversation avec quelque chose de très 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 loin.
Bon, lui, effectivement, il allait jusqu'aux expériences spirites, mais moi, je sais pas, je suis un peu... Je dirais pas que la mort est plus présente que d'autres sentiments, en fait. Je pense que le sentiment qui est le plus présent dans mes livres, c'est quand même la mélancolie. Et la mélancolie, pas au sens de la maladie, hein, au sens plutôt d'une forme d'excitant, d'une forme d'exaltation. Et c'est pas forcément ma mélancolie, c'est la mélancolie que j'observe chez les écrivains ou chez des peintres. Par exemple, dans L'immense solitude, je consacre quelques pages à De Quirico. De Quirico, pour moi, la mélancolie est vraiment son stimulant. Il va chercher sa mélancolie. On n'est pas obligé de la subir, on va la chercher et elle peut nous exalter. Et je pense que dans mes livres, ce sentiment, il est très proche. C'est pas forcément dans le livre lui-même, mais c'est dans ma façon de faire le livre. C'est-à-dire que je me mets dans un état particulier pour écrire ou pour dessiner. Je suis pas dans un état ordinaire. Je me mets dans un état de mélancolique. Je me mets dans un état, je dirais pas de tristesse, parce que c'est pas de la tristesse justement. C'est un sentiment assez particulier qui et j'ai besoin pour ça d'être de voyager, d'être dans des lieux qui sont propices à ce sentiment. Ça peut être, il faut en général, c'est un peu caricatural, mais c'est effectivement un restaurant vide au bord de la mer, hors saison. C'est idéal pour moi. Mais ça peut être aussi des endroits plus improbables, comme, je sais pas, moi, une cabane dans la montagne. Donc il y a le lieu, il est vraiment important et je pense dans mes livres, si je songe à ces livres, le lieu, il est toujours important, le lieu qui est exprimé, la ville, bon, évidemment, dans L'immense solitude, c'est Turin, c'est presque obsessionnel, quoi. J'ai passé 4 ans à regarder cette ville. Pas tous les jours, mais presque, puisque j'habitais à côté. Mais Paris, par exemple, est présent et un certain Paris, pas un Paris qui peut être idéalisée, quoi.
Mais cette mélancolie, est-ce qu'elle n'est pas alimentée par une réflexion sur votre propre biographie ? Vous avez écrit un livre qui n'est pas une autobiographie, mais qui est une sorte de portrait d'une génération qui a cru en des idéaux et qui a assisté de manière ultra mélancolique à la désillusion. Peut-être pas à la faillite, mais à la désillusion.
Oui, là, je ne sais pas si c'est la mélancolie. Je dirais que c'est plutôt... c'est un regard lucide. Hein. Enfin, je pense qu'il faut être lucide. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Et on a beaucoup... on vit tous dans les illusions. Puis il y a un moment de notre vie où on se rend compte qu'on est... que c'est Don Quichotte, quoi. On doit, à un moment donné, cesser d'avoir des mauvais rêves. C'est une des choses que j'exprime dans mes livres. Ça, dans le Manifeste incertain, c'est assez présent, ça.
On aurait pu faire mieux ?
Ah ben, bien sûr qu'on aurait pu faire mieux, mais le monde est dur. Le monde permet pas aux gens de rêver, quoi. Ça, c'est certain. C'est bien sûr qu'on aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais voilà, le monde est dur et impitoyable. Et puis le monde laisse très peu de place aux rêveurs, aux utopistes, aux gens, à la générosité, voilà, enfin tout ça reste embryonnaire, marginal.
Mais vous êtes un solitaire, vous avez choisi la haute solitude, vous avez abandonné les collectifs où les lendemains pouvaient non pas chanter mais être un tout petit peu meilleurs.
Moi, je suis solitaire plus ou moins, non, je suis pas si solitaire que ça. Je suis solitaire dans mes livres. Pour faire mes livres, j'ai besoin de solitude. Mais non, je ne suis pas trop solitaire, je ne crois pas. Bon, je ne suis pas dans un parti politique, ni dans une association, parce que je ne m'y reconnais pas. Quoi. Et encore qu'il y a peut-être des associations dans lesquelles je pourrais me reconnaître, mais je n'en ai pas encore, eu la nécessité. Mais les partis politiques, non, je ne peux pas. Quoi. Je ne peux pas adhérer. C'est pas possible. Pas tels qu'ils sont, quoi.
Nous avons choisi pour vous une petite pastille de mélancolie. En relisant certains de vos livres, Frédéric Pajac, nous allons écouter Dalida, Ciao Amore, Amore.
Nous sommes deux ans. Et de solitude, un grand amour sombre dans les habitudes, et l'on ose à peine rompre les silences, mieux vaut. Je veux voir des villes, qu'elles soient blanches ou rouges.
Ciao.
Alors quand Dalida a-t-elle chanté cette chanson?
Après la mort de Luigi Tenco, j'imagine. Ouais. Oui, parce que Luigi Tenco était l'amour de sa vie, qui s'est donné la mort à San Remo. Pour une raison étrange d'ailleurs, parce qu'il n'était pas choisi pour sa chanson, puisque c'était un concours de chansons. D'ailleurs, ça montre bien l'idiotie des concours.
Mais elle aussi, elle a voulu mourir.
Oui, elle a voulu mourir, oui. Mais c'est vrai que j'en parle dans le livre Mélancolie, oui. Il me semble que le livre commence sur cette... C'est ça c'est...
Vous avez oublié vos livres, hein?
Oui, mais il faut les oublier. Ah oui, non, alors ça c'est vraiment
pas
important.
Pas nous, hein?
Oui, oui, mais c'est important d'oublier ces livres, parce que il faut faire des livres, faut pas relire ces livres.
Un soir d'été, à Fano, au bord de l'Adriatique, les pêcheurs avaient ramené dans leur filet une énorme tortue de mer. Sur le quai, une foule surexcitée la malmenait à coups de bâton. Elle agonisait, son sang mêlé d'eau coulait sous sa carapace. J'étais horrifié. En fixant son œil, je souffrais son martyre, mais aussi son détachement, presque de la sagesse devant la cruauté de la foule. Le lendemain, à l'hôtel, on nous a servi un potage de tortue. J'ai vomi.
Oui, c'est absolument exact. Ouais, c'est terrible de voir ça. C'est terrible. En plus, les souvenirs d'enfance, c'est comme une caisse de résonance. Un souvenir pareil, ce regard, je l'ai toute ma vie en mémoire. C'est même quand je dis une caisse de résonance, c'est vraiment ça s'amplifie. C'est les sentiments qui s'amplifient. La cruauté, c'est quelque chose. Quand on est enfant, quand on découvre la cruauté, on n'est jamais apaisé.
Combien de fois avez-vous voulu vous suicider?
Pas souvent. Mais plusieurs fois. Mais moi, la première fois, j'avais 13 ans et j'ai fait une tentative de suicide. Et ce qui est quand même très jeune. Et mon père était mort depuis 3 ans et demi. Et en fait, je trouvais aucune issue dans ma vie. Je supportais pas l'école. Je supportais pas. J'étais incapable d'écouter un cours, de m'intéresser à quoi que ce soit. Et quand je vois des enfants qui sont dans cette détresse-là, évidemment, j'ai beaucoup d'empathie. Je les comprends parce que tout le monde n'est pas fait pour l'école. Moi, je critique pas l'école, mais tout le monde n'est pas fait pour l'école. Moi, j'étais pas fait pour l'école, c'est certain. Et même quand j'ai fait une tentative plus tard, à l'âge de 16 ans, de rentrer à l'école des Beaux-Arts, parce que j'ai fait 6 mois de... Mais être dans une école de beaux-arts, pour moi, c'était une punition, c'était comme être à l'école, quoi. Donc, oui, pour parler de ma tentative de suicide, je me suis noyé, je savais pas nager, je me suis noyé volontairement dans une piscine, et c'est évident que je voyais pas d'issue, quoi. C'est bon, on le sait, hein, le suicide, c'est... Il y a beaucoup de suicidés dans mes livres, parce que le suicide est vraiment la grande question, quoi. La mort, oui, mais le suicide, c'est encore quelque chose de vraiment de... Voilà, on peut parler à l'infini du suicide, sans jamais le comprendre.
Ben, parlons de Walter Benjamin, puisque vous en avez fait un des héros de vos livres, Frédéric Pajac. Vous racontez les derniers jours, les dernières heures, ce mystère qui reste encore attaché à cette mort volontaire de Walter Benjamin qui a sans doute perçu à l'intérieur de son corps qu'il était à bout de souffle dans tous les sens du terme. Et manifestement, vous êtes allé sur les lieux pour essayer de comprendre corporellement et psychiquement ce qui lui est arrivé.
Oui,
à Port-Bou.
Oui, oui, mais à l'inverse de ce que j'ai pu lire...
Vous proposez une autre version.
Oui, c'est-à-dire que... j'insiste surtout sur... si vous voulez, par exemple, Hannah Arendt a fait un portrait, elle n'est pas la seule, de Benjamin comme quelqu'un de maladroit et de peu chanceux.
Et de lourd physiquement.
Oui, bon, ça c'est certainement, mais quelqu'un qui avait la poisse en fait. Et on a, j'ai lu souvent des textes parlant de cet aspect de sa personne, mais pour moi, ce qu'on oublie de dire.
Alors il faut rappeler le contexte. Donc c'était en pleine guerre. Walter Benjamin avait réussi à se réfugier avec d'autres exilés, dont notamment Hannah Arendt à Marseille. Et plusieurs passeurs avaient proposé aux différents exilés antifascistes allemands de partir vers les États-Unis ou vers l'Espagne, soit par la frontière espagnole, soit par les bateaux de Marseille. Et Benjamin a choisi la marche et la frontière espagnole.
Alors la marche sur un court parcours, hein, c'est-à-dire il est parti de Banyuls à la frontière dans les Pyrénées, pour traverser à pied jusqu'à Portbouze, qui représente à peu près 7-8 heures de marche. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé, ce que j'apporte un peu dans le manifeste incertain, c'est de dire qu'il n'est pas simplement maladroit et qu'il faut oublier un peu dans quel contexte il est, c'est-à-dire qu'il est dans ce qu'on appelle la zone libre. On est en 1940 quand même. Et la zone libre, elle n'est pas si libre que ça. Et pour beaucoup de gens, dans les discussions, souvent, les gens comprennent pas, ne réalisent pas à quel point cette zone libre est dangereuse. Et elle est partout, dans tous les ports, dans tous les lieux publics. Il y a des agents de la Gestapo, il y a des mouchards, la chasse aux Juifs est déjà ouverte. Et on oublie une chose, c'est que ce que j'ai rappelé dans le manifeste, c'est que en 1940, à partir de juillet 1940, donc il faut savoir que Benjamin meurt en septembre, mais à partir de juillet 1940, le Gauleiter, le gouverneur, si vous voulez, Wagner, qui s'appelle Wagner, porte bien son nom, qui dirige l'Alsace, qui vient d'être annexée, envoie dans un premier temps 3000 juifs à Gurs, c'est-à-dire dans les Pyrénées, pas très loin de d'où se trouve Benjamin. Et 3000 juifs suivis rapidement de 6000 autres. Et donc c'est un camp qui a servi pour les Espagnols, qui a servi aussi pour les Allemands. Puisqu'on a enfermé des Allemands juste après la déclaration de guerre, comme des ennemis de la France, hein, et avant l'armistice, donc, hein, en 1939. Alors c'est compliqué parce qu'il y a les Espagnols qui viennent, par exemple, dans ce camp de Gurs. Il y a les Espagnols, il y a 25 000 Espagnols qui vont transiter dans ce séjourner dans ce camp. Et après, il y a des Allemandes, c'est essentiellement des femmes, dont Hannah Arendt, d'ailleurs, et Charlotte Salomon, et après, c'est les Juifs qui viennent de Strasbourg et de la région et d'Alsace. Et donc, il y a une menace réelle, puisque une partie de ces Juifs il y en a à peu près 1000 qui meurent tout de suite, enfin, dans les semaines qui suivent de maladie. Les conditions sont absolument épouvantables. Et puis, après, ce camp va servir aussi après pour Drancy, quoi. Donc, j'insiste un peu là-dessus parce que en 1940, il y a déjà des camps de concentration pour les Juifs. Et ce camp de concentration, il est dans les Pyrénées. Et ça, on oublie de le dire. Et si on va dans les Pyrénées, on demande est-ce que vous savez qu'il y avait des Juifs dans le camp de Gurs? Les gens, ils se rappellent pas. C'est quelque chose qu'on veut effacer de la mémoire, quoi. Et ça, c'est important parce que il n'est pas exclu que Benjamin l'ait appris, ça. Il était quand même assez bien renseigné, Benjamin. Et donc, je pense qu'il avait vraiment des raisons solides de désespérer. Et au moment où il est arrêté par la police espagnole, et donc il faut imaginer aussi une chose, c'est qu'il a... Il a tous les papiers pour partir aux États-Unis. Il a le visa pour transiter en Espagne et au Portugal. Et puis, il a un passeport américain. Donc, les Français de Vichy, puisque c'est quand même l'administration de Vichy qui donne les papiers, lui refuse le papier de sortie du territoire français. Et en fait, c'est ce papier-là qui va le désespérer et qui va l'empêcher de voilà, qui va en fait, les Espagnols voulaient le remettre dans les mains de la Gestapo. Et donc, son suicide, c'est pas seulement un état d'âme ou un problème physique, etc. Évidemment que ça a compté. Il est épuisé, il a des problèmes de cœur et tout ça. Et la marche a été extrêmement éprouvante pour lui, cette marche dans la montagne, que moi j'ai faite.
On comprend que vous l'avez faite, hein, parce qu'on est vraiment avec Benjamin grâce à vous. Souvent, quand il se passe des choses comme ça aussi importantes dans l'histoire intellectuelle, l'histoire politique et l'histoire tout court, évidemment, on imagine dans notre cerveau ce qui a bien pu se produire. Mais vous, Frédéric Pajac, grâce à votre double art, l'écriture et le dessin, vous nous faites parcourir peut-être la variété des sentiments qui ont pu assaillir Walter Benjamin. Oui. Et l'état dans lequel il se trouve quand il va s'enfermer dans sa chambre d'hôtel numéro 4, je crois, et qu'il va décider de mettre fin.
Oui, c'est important pour moi de dessiner ce chemin. Et j'ai fait, je sais pas combien de dessins de ce chemin, pour plusieurs raisons, parce que c'est le point de vue subjectif en fait, c'est ce que voit Walter Benjamin, c'est ce qu'il ressent dans cette montagne. Et c'est vrai que le dessin permet de dire beaucoup de choses en fait. Que je pense que le texte peut pas dire.
Cherchez-vous une élucidation à des problèmes que nous nous posons tous? Je pense à Walter Benjamin, sur lequel vous avez fait donc cet ouvrage. Je pense aussi évidemment à Friedrich Nietzsche, qui hante beaucoup aussi votre imaginaire, et ce qui s'est passé à Turin pour Friedrich Nietzsche, sur lequel vous avez fait un livre absolument remarquable.
En fait, moi je dis souvent que les écrivains ou les peintres dont je parle dans mes livres, dont je suis d'abord le lecteur, j'espère attentif, en tout cas passionné, ces personnages me sont étrangers, j'ai vraiment un vrai sentiment d'étrangeté. Et plus je les connais, plus je rentre dans leur à travers les journaux intimes ou la correspondance, plus je rentre dans leur vie, plus je suis étranger. Et c'est en fait ce sentiment d'étrangeté que j'ai envie d'exprimer dans mes livres. Alors évidemment, ça, paradoxalement, l'étrangeté ne va pas sans une certaine empathie, parce que même quand je parle d'Ezra Pound, qui est quelqu'un de une sorte de bouffon exalté, mais qui est en même temps un immense poète, mais même pour sa folie, je peux avoir une certaine empathie. Je dis une certaine empathie, hein. C'est très relatif, quoi. Mais il y a quelque chose qui m'émeut dans son délire, quoi. Je dis pas dans ses idées, hein. C'est autre chose. Ses idées sont absurdes et sont de l'ordre de l'erreur, quoi. Mais au sens profond, c'est-à-dire que quand je raconte qu'il va voir Mussolini pour essayer d'avoir une place dans le ministère de la Culture, il y a quelque chose de pathétique, parce que Mussolini le prend pour un fou, quoi. Il dit: qu'est-ce que c'est que ce type complètement exalté, cet Américain débraillé qui vient proposer ses services? J'ai pas besoin de ses services, quoi. C'est vrai que le fascisme n'a pas besoin d'un poète délirant, quoi. Le fascisme, c'est quelque chose d'assez ordinaire et assez brutal et assez c'est une machine, quoi. C'est une machine ça n'a rien à voir avec Ezra Pound. Il y a une sorte de malentendu profond
aimez bien le trouble des identités, et grâce au dessin, oui, et à l'écriture, oui, essayer de démêler ces troubles-là.
En tout cas, de l'exposer. Moi, j'essaie pas forcément de démêler. J'essaie de raconter quelque chose, de raconter, au fond, la complexité la mienne et la complexité des êtres humains. Après, je m'intéresse pas aux criminels, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. J'ai adoré le sang-froid de Truman Capote, mais je pourrais jamais faire quelque chose sur les criminels. J'ai pas de...
Mais sur les pervers, oui. Et par exemple, sur Nietzsche, Vous parlez beaucoup de sa sœur, cette horrible bonne femme, Elisabeth, qui a essayé de forger une image de son frère complètement fausse, puisqu'elle a essayé de le faire passer pour un penseur nazi, ce que vous décrivez admirablement bien, Frédéric Pajac. Et là, c'est très étrange, vous mettez des nez. Pourquoi, dans vos dessins?
Alors j'en mettais, parce que j'ai cessé d'en mettre, puisque j'ai fait une nouvelle édition de Liban Solitude, où j'ai refait 80 dessins et j'ai supprimé tout.
Alors
tout,
moi
tout.
J'ai une vieille édition,
ah oui, vous avez l'édition originale.
Avec des nez.
Oui, oui. Alors à l'époque, c'est justement parce qu'on m'a... c'est parce qu'on m'a demandé, on nous demandait tout le temps pourquoi c'est né, un peu de Pinocchio, quoi. Pourquoi c'est né sur mes personnages? À un moment donné, j'en ai marre de répondre à cette question. Donc, j'ai décidé de refaire une édition sans ces attributs, quoi. Justement parce que j'étais incapable de dire pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dessiné comme ça, machinalement, parce que j'ai fait beaucoup de dessins humoristiques. Donc, dans le dessin humoristique, on dessine des gros nez, en général. Donc, c'est par paresse, je dirais, que j'ai fait ça.
Donc, vous les avez enlevés?
Oui, et j'en ai plus jamais fait.
Et pourquoi partez-vous? Est-ce que vous avez aussi une sorte de mission d'anthropologie, de botaniste? Est-ce que c'est pour vous imprégner des sensations, des odeurs, des saveurs, de la couleur du ciel, de l'immensité des montagnes? Les montagnes sont très présentes dans votre travail. Ou est-ce que c'est parce que vous avez besoin de marcher?
Oui et non. Oui. J'ai besoin de marcher comme tout le monde, mais j'ai besoin de dessiner. Oui, j'ai besoin de. C'est quand même. Enfin, le dessin, c'est un art ingrat et difficile, parce que on a très peu de moyens pour s'exprimer. Et c'est une.
Vous avez toujours votre carnet avec vous dans la poche?
Non. Mais je décide, si je vais en montagne, je décide, je prends du matériel, et c'est pas vraiment un carnet, je prends vraiment du matériel de dessin, et je pars plusieurs semaines pour... Je le fais assez souvent, ça. Une fois, je suis parti 5 semaines, par exemple, j'ai dessiné tous les jours dans la montagne.
Et vous dormiez où?
Dans les chambres des refuges ou des chambres d'hôtel. Mais je partais, par exemple, je pars 8-9 heures dans la journée, et puis je consacre à peu près 4 heures à dessiner. Parce que dessiner la montagne, c'est compliqué de dessiner la montagne. Je suis pas sûr d'y arriver, d'ailleurs. Et je pense qu'on peut passer sa vie à essayer de dessiner la montagne. C'est tellement difficile, parce que notre œil, c'est pas trop où se poser, à part sur les cimes, mais après, ce qu'on appelle le flanc de la montagne, dessiner ce flanc de la montagne, tout les valeurs de gris qui... C'est assez complexe comme dessiner le
ciel. On a oublié de dire, depuis le début de l'émission, quand même quelque chose de très important, c'est que du noir et blanc. Vous ne travaillez que le noir et blanc.
Sauf un livre sur James Joyce que j'ai fait en aquarelle, mais qui a été tellement mal imprimé qu'au fond, on ne se rend pas du tout compte de la couleur. Quoi. La couleur est fausse et tous les personnages ont l'air d'avoir un coup de soleil. Donc c'était une catastrophe, cette impression. Donc j'ai arrêté parce que c'était mal imprimé.
À Morez, il n'y a pas de snob. À Morez, on ne crâne pas. À Morez, on est poli. Parce qu'à Morez, il n'y a aucune raison de ne pas être poli. À Morez, on n'est pas hautain. À Morez, on ne parle pas avec l'accent parisien. À Morez, on ne parle pas en anglais. C'est où, cette ville-là, cet endroit-là?
C'est dans le Jura. Dans le Jura français, c'est la capitale de la lunetterie. Et c'est ce qu'on appelle un trou, quoi. Et moi, j'adore cet endroit. J'ai passé des années, en fait, pendant des années, j'ai plutôt, pas exactement pendant les années, mais vraiment des années, pendant 15 ans, j'allais régulièrement passer un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Et puis, j'ai effectivement consacré un chapitre dans mes livres à cette ville qui m'émeut, quoi.
Est-il vrai que vous vous moquez de la métaphysique?
Un peu, oui. Oui, mais il faut se moquer un peu de tout, d'ailleurs. Je dirais un peu. J'ai rien contre la métaphysique. On a besoin de métaphysique. C'est vital, la métaphysique. Mais il faut non plus pas, Il faut jamais. C'est comme les idéologies. Comme moi, je suis allergique aux idéologies. Je suis allergique aux idées toutes faites, à tout ce qui nous emprisonne, toute la pensée qui peut nous emprisonner. Moi, je raconte souvent, par exemple, quand je parle d'un auteur, j'essaye de donner ma lecture de cet auteur, parce que souvent, je souffre de la lecture des autres, qui est souvent, par exemple, beaucoup trop hagiographique, ou l'admiration. Enfin, moi, j'essaie toujours de nuancer, parce que les auteurs qu'on aime, sont pas des saints, sont pas des héros. Moi, j'ai raconté assez en détail la vie de James Joyce, qui est quand même une vie particulièrement difficile, âpre, douloureuse. Et qui est un homme qui a fait souffrir sa famille, son entourage, ses enfants, sans le vouloir, hein, mais c'est pas quelque chose de volontaire, mais c'était assez terrible son rapport à ses enfants. Et moi j'ai voulu, et aussi avec sa femme, hein, et c'était intéressant de montrer chez quelqu'un comme James Joyce comment cet écrivain se comporte dans la vie, parce que cette vie, elle est dans ses livres. Ses livres, c'est sa vie.
Et la vôtre, vous allez repartir quand, contempler les étoiles?
Alors, vous savez que je vais faire donc en principe 9 manifestes incertains, là c'est le 3e, et là je suis en train de faire le 4e qui sortira en septembre, et pour ce livre, j'ai traversé l'Atlantique en bateau, et un paquebot, la croisière s'amuse, et je suis allé un mois après en Argentine, parce que je connaissais pas l'Argentine. Et je voulais aller sur les traces de Gombrowicz, mais tout à coup, j'ai éprouvé un profond désintérêt pour Gombrowicz. Donc, je me suis retrouvé un peu vide.
Bah ça vous plaît, le vide?
Bah il faut du vide. Il faut pas abuser, mais il faut. C'est même important d'être arrêté par. C'est important de n'avoir rien à dire.
Ben merci beaucoup, Frédéric Pajac.
Merci à vous.
Alors, celui qui n'a rien à dire s'appelle Frédéric Pajac. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment Mélancolie aux presses universitaires de France, L'immense solitude, Frédéric Nietzsche et Cesare Pavese, Orphelin sous le ciel de Turin aux presses universitaires de France. Et puis cette grande entreprise éditoriale, artistique, intellectuelle et littéraire qui s'intitule Manifeste incertain. Le numéro 3 est paru l'an dernier aux éditions Noir sur Blanc. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, à Valérie Lavalard, Corinne Amard, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.